Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur ERFM pour cette 35e émission de la Libre Antenne consacrée à une thématique devenue incontournable à l'approche des tant espérés Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous allons bien sûr parler des avancées et des dérives du mode de vie urbain en ce début de 21e siècle. Je suis Blaise et c'est moi qui vais animer cet entretien dans lequel les militants de la section Égalité et Réconciliation des Pays de la Loire vont pouvoir interroger notre invité, un invité rompu dans l'art du bien-vivre, ou comme dirait le grand Balzac, dans la vie élégante. Nous recevons donc un habitué de la maison, un chroniqueur ERFM autant qu'un auteur des éditions Contre-Culture. J'ai nommé Lounès Darbois. Bonjour à vous Lounès, comment allez-vous ?
Bonjour Blaise, ça va, merci. Et vous ?
Avant
Et
de démarrer.
toi, qu'est-ce que je dis? Pourquoi je dis et vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, entre camarades, on se tutoie bien sûr. Allons, la simplicité.
Ça va très bien, merci beaucoup. Avant de démarrer cette émission, nous tenons à remercier particulièrement ERFM de nous confier le micro dans cette émission et invitons ainsi tous nos auditeurs à participer au financement associatif de ERFM et de la rédaction de Combat. Et maintenant, revenons à notre invité. Lounès, nous avons souhaité, avec la section d'égalité et réconciliation des Pays de la Loire, de savoir si vous pourriez un peu nous aider à confronter ces deux notions que sont celle de la qualité de vie et celle de l'urbanisme au XXIe siècle.
Est-ce que je suis la personne autorisée pour ça? Je ne sais pas, mais c'est un des sujets que j'aime. Et bon, souvent, des types sur Internet me contactent pour me demander de parler de la pornographie, par exemple. Et je suis beaucoup plus intéressé par des sujets, disons, visibles et concrets qui sont autour de nous tous les jours. Nous avons celui de la qualité de vie, du vêtement, de la ville, du paysage, des choses comme ça. Je sais pas, chez moi, j'ai des livres sur, par exemple, le dictionnaire de l'ornementation illustrée. Dictionnaire illustré de l'ornementation, plutôt. Sur qu'est-ce que c'est que le bâti français classique dans la ville de Paris, par exemple. Ce qu'on appelle le haussmannien. Quels sont les différents éléments d'ornementation de ces bâtiments d'habitation qui sont de véritables œuvres d'art. On peut aller à Paris pour voir des musées, mais on peut aussi aller à Paris simplement, comme le font certaines Instagrammeuses qui n'ont pas toujours mauvais goût, pour simplement se planter devant certains très beaux immeubles d'habitation, les photographier, en photographier les détails, ce genre de choses. Eh bien, disons, qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur ce sujet? On peut parler d'un sujet qui aurait pour titre peut-être l'intelligence de la forme en matière d'urbanisme, d'architecture et aussi de décoration intérieure, d'ameublement. Le début de la politique, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'écrire un livre de 800 pages sur l'histoire des droites, par exemple, après 10 ans d'études et 20 ans de réflexion, méthode droite bourgeoise française, vous savez? Ou est-ce que ce serait plutôt de simplement ranger sa chambre? Commencer par ranger sa chambre, méthode droite populaire italienne, concrète, l'école concrète. Ranger son appétit, son alimentation, ranger sa flemme, aller au sport, ranger son corps, réfréner sa démangeaison de parler, pas comme moi maintenant. Agir plutôt que dire ou penser, faire, produire, se réformer. Bon voilà, commencer en soi-même la réforme que l'on veut appliquer au monde, disait je crois Gandhi. Bon, ces actes symboliques comportent probablement un sens plus profond qu'ils en ont l'air. Balayer son pas de porte, puis un peu plus loin, son coin de trottoir. Et de là, rencontrer d'autres gens, ces égaux, qui eux aussi vivent pour se réformer et réformer leur monde. Puis avec eux, ranger le quartier, ranger la ville, et puis un jour peut-être ranger le pays, on peut rêver. Ranger, c'est mettre de l'ordre, et la paix, c'est la tranquillité de l'ordre, disait Aristote. Rien que ça. Je voulais dire peut-être certaines choses ici, Blaise, concernant l'urbanisme, suite à lecture d'un livre qui s'appelle Le Prince et la Cité. Le Prince et la Cité a été rédigé par qui? Par Charles III, à l'époque où il était le Prince Charles, donc le Charles d'Angleterre, qui que je ne mettrais pas du tout dans le même sac avec le prince Andrew. Je crois, je ne tiens pas du tout le Charles III pour un dégénéré ou un abruti. Il faudrait étudier ça plus en détail, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, on peut remarquer qu'il a toujours été extrêmement bien habillé, en tout cas avec discrétion et sobriété et élégance et d'un goût parfait. Et comme par hasard, c'est cet homme-là qui a écrit un livre sur l'urbanisme et l'architecture pour son pays. C'est-à-dire que dans son pays, les princes et les rois ont un rôle politique très, très restreint, cantonné souvent à des aspects très symboliques. Mais ces aspects-là encore, ils savent très bien les incarner, ces souverains-là. Et dans la toute petite partie de pouvoir qui lui incombe, le roi Charles III, à l'époque prince Charles, a très bien fait son travail. Notamment, il a écrit ce livre Vision of Britain, donc traduit en français par Le Prince et la Cité, pour, je cite, maintenir le caractère typique de l'architecture locale pour qu'elle serve aux besoins des gens ordinaires. Ça, c'est le vrai rôle d'une aristocratie qui sait à quoi elle sert, c'est qu'elle sert à aider à la vie quotidienne et au cadre de vie des gens ordinaires. L'aristocratie n'est pas là pour se donner des dîners les uns les autres ou pour, je sais pas, ou pour se montrer son argenterie les uns aux autres, vous voyez. Mais elle est là historiquement pour régner sur une portion du territoire, améliorer cette portion du territoire et aider les gens de cette portion du territoire. C'est à ça que servent les petits seigneurs, les petits barons, les petits comtes, voilà. Et ils ont dégénéré terriblement en France à partir du XVIIIe siècle. Et en cela, au XVIIe, Louis XIV les avait grandement poussés, hélas. Enfin, on pourrait parler un jour de Louis XIV comme roi catastrophique, quoi. Il a fait toutes les erreurs. Il a fait toutes les erreurs, il a fouetté le jansénisme, il a fait les guerres qu'il ne fallait pas faire et il n'a pas fait les guerres qu'il fallait faire. Bon, ça, c'est un grand sujet encore. Enfin, bon, bref. Et en tout cas, dans A Vision of Britain, dans Le Prince et la Cité, le prince Charles avait émis 10 principes sur lesquels bâtir, espérant qu'ils soient acceptés largement par les architectes comme un code à observer, tout comme nous observons, nous, des règles de grammaire et des règles de bonne manière. Quels étaient ces 10 principes? Le cadre où bâtir, la hiérarchie des bâtiments, l'échelle des bâtiments, l'échelle de taille des bâtiments, l'harmonie, l'encadrement de ces bâtiments par des barrières, par des clôtures, enclosures, les matériaux utilisés pour ces bâtiments, la décoration qui va mettre en valeur ces bâtiments, l'art qui va orner ces bâtiments, la signalisation et la communauté. Et alors, arrêtons-nous seulement très brièvement sur la signalisation, par exemple. Eh bien, la signalisation dans une ville, c'est un sujet très important. Quel va être les codes couleurs employés? Comment on va faire qu'un panneau soit le plus lisible, le plus vite possible par exemple, des conducteurs de voitures, et en même temps qu'il ne gâche pas, qu'il ne salisse pas l'harmonie du lieu? Vous voyez? C'est une grande question. La signalisation doit répondre à des critères très concrets de clarté, de positionnement judicieux et de contrôle par la commune, par la ville, par la collectivité locale. Encore un sujet comme ça. Quand la signalisation est bien gérée, eh bien vous avez un panneau qui fait à la fois le feu rouge, le panneau indicateur et un panneau d'interdiction, par exemple. Vous voyez? Dans la ville où j'habite, qui n'est pas en France, mais bon, il ne faut pas médire du lieu où on réside, mais donc c'est pour ça que je ne vais pas le citer. Mais dans la ville où je réside, il y a un gros problème avec la signalisation. Parce qu'on va vous faire, on va planter dans le trottoir un panneau pour flécher un endroit, un autre pour interdire d'y stationner, et un autre encore pour faire une publicité. Ce qui va faire que sur une portion très réduite de territoire, peut-être 1 mètre, 2 mètres, vous allez voir des fois deux, trois, parfois quatre panneaux qui se dressent et qui enlaidissent énormément les bâtiments qui se trouvent derrière, qui souvent sont beaux. Et ça, tout ça procède de l'intelligence concrète appliquée au terrain. Pas l'intelligence spéculative, intellectuelle, de faire des plans sur la comète pour savoir comment penser ou comment vivre ensemble, ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui est le plus évident? Ça, c'est la vraie intelligence. C'est la pénétration de l'esprit dans le concret. C'est ce qu'il y a de plus masculin. C'est ce qu'il y a de plus géométrique. La géométrie, comme vous le savez, c'est la science des sciences qui est la géométrie et qui est la plus masculine. Un gros problème, vous le savez, qu'ont les femmes pour faire un créneau en voiture, pour garer le véhicule. Pourquoi? C'est parce que ça demande une intelligence abstraite appliquée à l'espace. Et ça, c'est un truc qui manque aux femmes. Les femmes peuvent être douées, par exemple, pour faire deux choses à la fois dans l'espace. Par exemple, pour. Vous voyez les mères de famille chrétienne, celles qui ont le téléphone sur une oreille comme ça dans le coude, enfin dans le cou, qui font, je sais pas, qui préparent un plat avec la main droite et qui à gauche empêchent l'enfant de se brûler en s'approchant du feu. Vous voyez? Bon, voilà, ça c'est l'intelligence féminine, c'est faire plusieurs choses à la fois et calmement. L'intelligence masculine, c'est plutôt de comprendre comment on va installer quelque chose dans l'espace, comment on va optimiser quelque chose. Et c'est difficile à expliquer comme ça. Vous voyez, ça procède beaucoup de l'intuition. Ah oui, je finissais juste pour cette histoire de Prince Charles. C'est que le Prince Charles, là aussi, n'a pas fait qu'écrire ce livre-là. Il a appliqué ce livre de manière très concrète dans la ville qui lui appartient. Parce que comme prince et comme homme politique qui a hérité d'un titre et d'un territoire, il gère un territoire concrètement qui est un petit peu le lieu où on peut observer, mesurer si son baratin peut se servir à quelque chose ou pas. Cette ville, ça s'appelle, c'est un village qui s'appelle Poundbury, dans le sud, je crois que c'est le sud-ouest du pays, donc c'est le nord. Moi, je crois que c'est le sud-ouest. Non, c'est les Cornouailles, c'est la partie qui fait juste, qui fait face à notre Bretagne, à nous. La Grande-Bretagne fait face à la Bretagne. Et là, vous avez les Cornouailles, qui est l'endroit d'ailleurs le plus breton d'Angleterre. Un petit village qui s'appelle Poundbury, qui a servi finalement de maison témoin à Charles pour y appliquer tous les principes, les 10 principes dont il a parlé dans son livre Le Prince et la Cité. Donc très joli petit village traditionnel, et où je crois même le prince Charles y gère une ferme à lui où il produit des produits de la ferme qu'il vend. Voilà, enfin bon, c'est sur cet aspect très italien et anglais du concret. L'Italie a ça aussi beaucoup dans notre école, un autre style, mais ce qu'on fait, on doit pouvoir le démontrer par des choses concrètes et c'est toujours très difficile à faire. Voilà. Et nous en France, qu'est-ce que nous on sait faire? Alors je pensais à des endroits comme Arras dans le nord de la France, Richelieu, je crois que c'est dans l'Indre. Ville construite par Richelieu au XVIIe siècle, et l'Île-Dieu. Il y a une manière ici très française de déployer une totalité contenue en germe dans un seul pâté de maison, dans un seul immeuble, sur l'intégralité d'un territoire donné. Un quartier, un village, une petite ville, une grande ville ou une île. Donc comme Arras, Richelieu, l'Île-Dieu, et aussi peut-être Paris aussi pour le bâti qu'on appelle haussmannien. Vous voyez cette manière de répliquer partout le même modèle, mais non pas en copiant un modèle de base et en le recopiant partout, mais en laissant ensuite à chaque architecte indépendant le soin de perfectionner, de magnifier, d'interpréter ce modèle de base, ce style, ou au contraire de l'épurer. Mais toujours dans le cadre d'une certaine humilité et de conscience du bien commun, de souscription à un style collectif. Est-ce que vous voyez la manière dont le bâtiment d'habitation parisien qu'on appelle haussmannien, mais en fait, il n'est pas exactement haussmannien, parce qu'en fait, c'est un style de bâtiment qui a fait Florès à Paris entre 1840 et 1940. Il n'y a plus rien de construit sérieux de style français. Il n'y a plus de style français, en fait, c'est terrible. Après 1940, et Paris est une géniale ville d'observation pour ça. Bon, après, ça tient aussi à d'autres critères politiques, voire politiques très politiquement incorrects aussi. Bien. Et après 1940, l'effondrement de ce sens collectif a donné les horreurs que nous connaissons, justifié par la phraséologie des livres d'architecture. Enfin, si vous voulez lire du baratin, lisez un livre d'architecture contemporaine, quoi. Par exemple, des phrases comme « inscrire un bloc innovant dans l'espace ancien pour redéfinir des volumes nouveaux ». Enfin, ce genre de phrases bateau, toujours. Vous lisez ce genre de livre, en 2 pages, il vous tombe des mains, quoi. D'ailleurs, parce que ces volumes nouveaux, ils sont d'ailleurs très vite redéfinis par l'inscription d'autres blocs innovants. Processus qui préside d'ailleurs peut-être aux 2 pires villes du monde civilisé qui sont New York et Los Angeles, qui sont aussi les 2 plus instagrammables du monde, mais pour d'autres raisons. Puisque finalement, c'est là un des critères du nomadisme, quoi. C'est comme si quelqu'un plantait sa tente quelque part, jusqu'à ce que quelqu'un arrive avec une yourte derrière, et puis un autre avec. Voilà. Enfin, finalement, ça n'a pas de fin. Ce qui est rassurant dans Paris, et pourquoi pas tout le monde aime Paris finalement, pourquoi elle a autant de millions de visiteurs par an, c'est parce qu'il émane de cette ville une certaine stabilité. Les gens de partout, finalement, sont très d'accord pour se soumettre à l'idée nomade de leur propre vie. Mais quand ils vont en vacances, c'est curieux, ils aiment aller dans des endroits très stables, très, très beaux, qui ne bougent pas. Ils ne voudraient pas qu'on construise des tours à cet endroit-là. Par exemple, Paris notamment. Et en France, je pense à l'île Dieu, parce que je vois un peu de quoi il s'agit. Finalement, vous voyez les bobos d'un peu partout de France qui vont là-bas parce qu'ils sont très contents de pouvoir y circuler à vélo. C'est calme, c'est des belles maisons blanches, toutes sur le même style, des volets bleus. Enfin, ça évoque la France radieuse et heureuse, quoi. Et ça rassure beaucoup. C'est quelque chose qui permet de voir loin dans le temps. C'est très agréable d'habiter dans un endroit stable. Le bon urbanisme permet aussi les trajets fluides, calmes, efficaces, des trottoirs larges et lisses, de grands espaces isomorphes sur lesquels on peut marcher facilement, il n'y a pas d'aspérité qui accroche. Voilà, c'est aussi procède d'une certaine intelligence de la forme. Et c'est la fonction qui fait la forme. La fonction fait la forme est la grande phrase clé de beaucoup d'urbanistes et d'architectes intelligents. Parce qu'elle est aussi la phrase clé des formes présentes dans la nature et qu'elle préside au soubassement de la beauté physique, aussi probablement. Il en est ainsi de tout, mais il n'est pas dit que la fonction du corps soit bassement utilitaire et darwinienne. Là, une petite incise comme ça, peut-être que la preuve en est, c'est que la beauté du visage semble échapper à tout énoncé rationnel, sans doute aussi à cause d'articulations qu'on a du mal à mettre en place. Nous sommes là peut-être en matière de beauté physique, peut-être au-dessus de la nature, dans une géométrie, dans une architecture mystérieuse, où dans un visage, l'ossature, c'est la charpente, le nez, c'est, je sais pas, c'est la poutre maîtresse, les yeux, les fenêtres, vous voyez, ce genre de choses. La bonne architecture, c'est un signe de sédentarité, de stabilité aussi, c'est le vrai signe mesurable d'une civilisation. Et au contraire, nomadisme égale prédation égale précaire. Et la ville devient là une aire d'autoroute, elle appartient à tout le monde et à personne. Il n'y a rien de plus déprimant que regarder ce qui se passe dans une aire d'autoroute, si un jour vous y êtes et qu'il faut changer un pneu, je ne sais pas, et de rester là une heure. Une aire d'autoroute, c'est agréable 5 minutes, pas plus. Quand vous comprenez qu'en fait, c'est un endroit qui se renouvelle par l'apport inépuisable de gens qui viennent, je sais pas, il y en a peut-être des fois des milliers en une heure, hein, qui arrivent dans une aire d'autoroute, qui viennent accomplir les mêmes tâches, acheter les mêmes trucs, faire les mêmes besoins, jeter les mêmes choses, etc. C'est hyper angoissant ce que c'est qu'une aire d'autoroute comme type d'espace. Or, ce qu'a dit une place, c'est ce qui est en train de devenir une ville comme Paris. Alors là, on fait un peu le ménage pour les JO, mais voilà, enfin, il y a des travaux partout, tout le temps. Enfin, bref, je sais pas, vous connaissez ce que c'est, là, ce que c'est devenu. Le gâchis affreux de Paris qui vous brise le cœur. Et d'une ville qui était celle du petit Nicolas dessiné par Sempé est devenue la ville d'une violence abominable dessinée par Riyad Satouf. Et là, il y a vraiment un truc pour savoir ce que c'est que Paris, si vous regardez les dessinateurs. Qui se sont employés à la décrire. Regardez Sempé à partir des années 60, de 60 à récemment, hein, quand il est mort récemment, Dieu ait son âme. Et vous voyez plus récemment, donc Riyad Satouf qui a merveilleusement dessiné à Paris ce qui se passe dans les transports en commun, dans la rue, dans ses albums qui s'appellent. Ça s'appelle comment? La vie réelle de la jeunesse ou un truc comme ça. Ici, enfin, c'est en 3 tomes. C'est des petites bandes dessinées très bien faites sur ce qu'il a vu réellement. Il dessine jamais un truc imaginé, il dessine ce qu'il a vu. Donc il met vu tel jour dans le métro, ligne 9, machin. Et il montre comment les gens vivent, ce qui se passe, ce qui est normal pour les gens. Et c'est la période à Paris qui court environ de 2000 à 2010, qui était vraiment une période mais d'une violence mais abominable pour ceux qui ont connu Paris avant. Et Ça a été vertigineux. Depuis, ce qui se passe à Paris, c'est peut-être anecdotique par rapport à ce qu'il y a eu à Paris entre 2000 et 2010. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Mais donc, non, ça s'appelle La vie secrète des jeunes. Voilà. Ce sont les bandes dessinées de Riyad Satouf qui s'appellent La vie secrète des jeunes. Parce que ce mec-là, Riyad Satouf, n'est pas qu'un type affilié à Charlie Hebdo, qu'on pourrait suspecter de tous les maux. C'est aussi quand même un mec profondément sensible qui est resté assez pur par rapport à deux, trois. Enfin, deux, trois promesses de jeunesse, quoi. Tout n'est pas à jeter chez des mecs comme ça, des mecs du mainstream, hein, parce que Riyad Satouf en fait partie, bien sûr. Mais ces bandes dessinées-là sont très bien. Alors, un film a été tiré de ça. Il a été aussi à l'origine d'un film, hein, qui s'appelle La vie secrète des jeunes, mais c'est un sujet complètement différent. En fait, La vie secrète des jeunes, c'est sur son adolescence d'ado boutonneux et angoissé, là. C'est un autre sujet. Dans une maison, dans un immeuble, notamment haussmannien, il y a ça beaucoup. Ce sont les aspérités, c'est l'envers du décor qui est le plus attirant. Les recoins, les embrasures, les alcôves, les jardins privés d'arrière-cour, les escaliers de service, les remises, les guérites de concierge, les fenêtres entrebâillées, les renfoncements, les appintis. Surtout lorsque, et là c'est moi qui ai fait un peu lyrique, mais lorsqu'ils sont surtout peuplés de braves gens, de familles locales, heureuses, nombreuses, d'enfants qui jouent du piano, qu'il en vient des bruits de vaisselle qui tintent et des effluves de dîner qui cuit dans une marmite placée au-dessus d'un feu de bois dans l'âtre d'une cheminée. Je vous dis ça pourquoi? C'est parce que dans les habitats actuels, vous voyez tout l'art auquel s'ingénient les saccageurs modernes, c'est de casser les compartiments, de faire un seul grand espace, refermé par des cloisons mobiles, qui le plus souvent vont rester fixes. Alors ça, c'est un sujet très intéressant qu'a creusé Houellebecq dans ses écrits de jeunesse. Et là, c'est un écrit qui s'appelle Approche du désarroi, dans lequel, très bizarrement, il parle des articulations qu'il y a entre les systèmes d'information modernes, l'urbanisme moderne, l'architecture moderne. C'est un texte génial qui doit faire, je sais pas, 5-6 pages. Si des prescripteurs importants pouvaient lire ça en France, ça ferait énormément de bien au paysage et au paysage urbain aussi. Oui, parce que si vous voulez, dans des appartements où tout est blanc, où tout a été repeint en blanc, lissé à la ponceuse, et où il n'y a plus rien de. Je sais pas, où il y a plus de plasticité, où il y a plus d'enracinement finalement, vous voyez. Qu'est-ce qui reste dans un endroit comme ça? Qu'est-ce qui est beau dans l'appartement haussmannien traditionnel? Je ne sais pas, c'est, vous voyez, c'est les dessins, les rinceaux de feuilles d'acanthe au plafond, là, ce qu'on appelle les moulures. C'est que les portes, elles ont des, comment on appelle ça, des lambris, vous voyez? C'est que dans un mur est installée une trappe que vous pouvez ouvrir, par laquelle passe la soufflerie pour le chauffage central, vous voyez? Des petites choses intelligentes comme ça, à la française, quoi. Pareil, l'ascenseur traditionnel français ancien, vous voyez là? Les vieux ascenseurs avec une grille que vous rabattez coulissante.
Et comme dans le Père Noël est une ordure, oui.
Ouais, voilà, bon, bah ça, exactement. L'ascenseur du Père Noël est une ordure. Mais voilà, moi, quand je voyais ce film quand j'étais enfant, j'avais l'impression que c'était tout à fait normal, parce que l'appartement de mes grands-parents et l'immeuble de mes grands-parents étaient comme ça. Avec un ascenseur, ça s'appelait les ascenseurs de la marque Roux Combalusier. Roux-Combalusier. Ouais, à Paris, il y en a encore quelques-uns, mais parfois, ils sont remplacés. Là, on pourrait parler de remplacement, vous voyez, de grands remplacements par des crasses immondes, plastiques ou en, je sais pas moi, en métal, vous voyez comme ils sont, des trucs fermés à l'aveugle, des cages d'ascenseur à l'aveugle, c'est affreux.
Ouais, les Otis.
Ouais, les Otis, là, des trucs comme ça, voilà. Les HLM des années 60, des années 50-60, quand ils sont sortis de terre, les gens hallucinaient, se demandaient mais à quoi ça va servir? Enfin, on va pas habiter là-dedans, c'est immonde. Mais en fait, on ne comprenait pas ce que c'était l'histoire et les gens qui gèrent ce qu'on appelle vraiment la politique au sens vraiment profond. En fait, c'est des gens qui savent ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, mais vous ne le savez pas encore. Et donc, ils font des choses dont vous voyez pas encore la raison. C'est terrible, ce truc-là. C'est vraiment, c'est là que vous comprenez que la politique, c'est un peu de. Et la gestion de bétail d'abattoir, c'est que les HLM qui sont sortis de terre fin 50, début 60, en fait, ils allaient servir à loger tous les rapatriés des colonies qui étaient en train de fermer. Mais il n'y avait aucune raison encore de le penser quand ils sont sortis de terre. Mais après, ce n'est pas une question d'un complot, mais c'est que les gens qui gèrent ce qu'on appelle la politique, vraiment, au sens profond, ils voient loin voilà, sur des années et des années à l'avance. Et en fait, ça servait à ça. De la même manière, ben, enfin, Erasmus, ça servait peut-être aussi à ce que des jeunes abrutis, peu à peu, se fassent à l'idée d'habiter, de jamais habiter de manière sédentaire quelque part et de devenir des nomades et de devenir la bourgeoisie de sous-prolétariat, eux aussi nomades, si vous voulez. Ouais, mais on est tous des nomades, vous voyez cet esprit-là, cet esprit Attali. Et c'est marrant, ceux qui en parlent en ayant le sourire aux lèvres, c'est toujours les mecs de la plutocratie ou les cireurs de pompes de la plutocratie, c'est-à-dire la bourgeoisie cireuse de pompes de la plutocratie. Ceux qui trouvent un intérêt vraiment concret, soit parce qu'ils ont très mauvais goût et donc rien ne les choque, soit parce que finalement, ils ont beaucoup d'argent, ils se mettent en location quelque part, comme ils habiteraient à l'hôtel. Pour eux, c'est là ou ailleurs, c'est pareil. De toute façon, ils se feront toujours servir à manger. Leurs vêtements sont repassés par la boniche, vous voyez, en bas. Pour eux, ils s'en tapent, quoi. Mais c'est là que la classe moyenne, c'est vraiment la classe révolutionnaire, parce que c'est nous qui devons assumer des réalités concrètes comme ça, comme Rimbaud devait gérer sa lessive. Vous voyez, on ne peut pas être que des rêveurs, quoi. Et donc, voilà, ça fait que ces choses-là, nous, on les porte aussi. Et ça, c'est ni le sous-prolétariat de squatteurs là, qui vient comme des squatteurs rentrent dans un squat. C'est ni eux qui portent cette réalité-là, ni des plutocrates qui habitent à l'hôtel, hein, comme disait Attali. Et cette phrase, c'est grave. Hein. Il faut pouvoir en rendre raison un jour hein, de parler comme ça. Il y a sans doute un très beau Moscou, je sais pas, je connais pas, je suis pas allé, mais sans doute aussi des choses faites à la va-vite et qui sont pas pour être visitées par les touristes, quoi. Un peu comme Paris, un peu comme Paris après les années 60. On n'a pas de leçon à donner de ce point de vue-là. Chez nous, hélas, je pense qu'il faut le dire, les communistes ont fait quand même énormément de dégâts. On le voit notamment autour de Paris, quoi. Il y a un vrai problème, hein. Il y a eu un truc où en fait ils avaient besoin d'électeurs et ils ont vendu le pays à. Ils se sont mis d'accord avec certains gaullistes, quoi. Et ils se sont mis d'accord et ils ont vendu le pays pour des voix à d'autres gens, quoi. Et là, il y a un problème, c'est pas qu'un problème moral, hein, c'est un problème de quantité aussi, de nombre. Hein. Bon, voilà. Une fois que le mal est fait, ben voilà, quoi. Et ça, c'est toujours le fait de gens qui ne sont pas vraiment. Loyaux envers le pays, il y a un problème de loyauté parce qu'ils sont pris par une espèce de par des toujours pareil, on en revient toujours à ça, par des idées abstraites internationales, d'internationalisme, de fraternité entre les peuples, enfin de baratin, tous baratins francs-maçons, bancaires internationaux, hein, vous voyez, qui met tout le monde à égalité avec des numéros de compte en banque et des enfin soit des numéros de compte en banque, soit du baratin gauchiste, quoi. Et là, c'est des gens qui sont forcément déloyaux. Ils ont forcément, eux, une espèce de double éthique, presque de double nationalité, quoi, ces gens-là. Les internationalistes, les cosmopolites, disons. Ben voilà. le fruit de cet arbre pourri, ben voilà, c'est ce qu'on connaît de nos jours. Vous voyez cette ambiance où les zones dédiées à la circulation sont saturées et les zones dédiées à l'habitation semblent vides d'habitants, justement. Cette ambiance de couvre-feu le soir dans les villages, même les villages de maisons en crépi, là, qui poussent partout à côté des vrais villages anciens. Et à côté de ça, vous voyez ce que... En Île-de-France, vous voyez ce que c'est qu'une route nationale ou départementale en Île-de-France ou dans la plupart des départements français? Cette espèce de contraste entre la circulation très dense et l'habitat qui semble dépeuplé, quoi, inexistant. Et ça, c'est un des signes du nomadisme, finalement. Il y a une grande beauté aussi dans l'architecture, dans ce qu'on appelle l'esthétique désolée en architecture. Une baraque à frites au store fermé, un parking de centre commercial désert, un quai de déchargement en grève, des rames de train immobiles sur une voie de garage déserte. C'est l'invasion qui a rendu ces spectacles potentiellement inquiétants, comme si un junkie à dread allait surgir potentiellement avec ses tags, sa quincaillerie. Voilà, c'est l'insécurité qui rend ça laid. Mais en réalité, un espace urbain rendu à l'inutilité, au calme parfait, mais c'est presque un lieu de méditation, je vous assure. Un parking de centre commercial le dimanche, quand il n'y a personne, quand le soleil se couche, quand il y a la lumière rasante, c'est extrêmement paisible, extrêmement apaisant, extrêmement beau, et ça dit beaucoup de choses aussi. C'est le moment, vous savez, où la société de consommation s'arrête, se calme, où on a l'impression que... Je ne sais pas, que quelque chose d'autre va être possible, que quelque chose d'autre va se passer si on est un peu méditatif, vous voyez. On peut faire des grandes promenades en forêt. Moi, je déteste la forêt. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas l'horizon, on ne voit pas loin, on ne voit pas la lumière penchée. Les arbres arrêtent ça. Et par contre, j'aime beaucoup la plaine parce qu'on voit très très loin. Et, quels sont les plus beaux endroits de France? Pour moi, je vais vous le dire, c'est toute la France qu'il y a au nord de Amiens, Beauvais. Disons, après Creil, après Amiens, après Beauvais, vous voyez, après Compiègne, là-haut, là. Il n'y a que des grandes plaines, Picardie, etc. Puis après, c'est l'Artois et la Flandre française. La Flandre française, c'est très bas. Enfin, c'est la région de Lille, Arras, Lens, tout ça. Plus, c'est des villes magnifiques. Arras, c'est une des plus belles villes de France, quoi. C'est le Aix-en-Provence du Nord. Vous voyez absolument Arras. Et vous savez combien les armées françaises sont battues pour récupérer plus ou moins cette ville aux Espagnols, parce que bon, c'est eux qui l'avaient. Mais en tout cas, il ne fallait pas que Paris soit à moins de tant de journées de marche d'une armée étrangère. Et donc, c'est pour ça que Louis XIII puis Louis XIV ont beaucoup insisté pour que ces parties-là de la France appartiennent au royaume. Il ne fallait surtout pas que, si vous voulez, que la France commence à, peu après, comment s'appellent les villes là, Albert, la ville de ces villes-là, ces petits villages. Disons, la France, où on commence à construire en briques, donc à partir de la Picardie, à partir de Albert, de Corbie, de tout ça, Ça n'a pas toujours été la France. Si vous regardez la carte au XVe siècle, au XVIe, ça a été très disputé. Le duché de Bourgogne, après les Pays-Bas espagnols, etc. Ça a été tout un cirque pour avoir ces parties-là. Ça a été terrible. Et c'est bon, c'est un autre sujet aussi qui explique que l'Europe se soit coalisée tellement souvent contre la France, bien avant les guerres napoléoniennes. Bon, bref. Mais donc, l'esthétique de Zoé a un vrai charme et dit beaucoup quand on sait la regarder et qu'elle existe dans un territoire sûr, au plan de la sécurité. Ces spectacles sont rendus très beaux parce que nul individu n'y est présent et nul rapport marchand n'existe non plus. Voilà. Mais un clip très beau a résumé tout cela, un clip dont j'ai parlé et que vous avez bien sûr déjà regardé, qui s'appelle Glue. 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 Du groupe d'électro anglais Bicep, Bicep, CEP, comme un biceps, mais sans S. Dans cette question des standards de la vie concrète, j'ai vu des gens se révolter, par exemple, dans un restaurant pour un plat qui ne leur convenait pas. Enfin, voilà, des gens que je connais dire, on ne va pas manger ça, on n'est pas des chiens, quoi. Et surmonter leur faim jusqu'à trouver une nourriture qu'ils jugent digne d'eux. Et ça peut être quelque chose de très simple, un casse-croûte tout simple, mais préparé avec des vrais ingrédients français. Et ces gens, curieusement, c'est peut-être là que j'essaie de trouver l'articulation entre tous les sujets dont je vais vous parler, étaient souvent les mêmes qui montraient une grande exigence pour. Une grande connaissance pour des standards personnels en vêtements, en logement, en ameublement. Et curieusement, ces gens étaient encore les mêmes qui avaient en politique la conscience la plus aiguisée et en art les goûts les plus sûrs. Et au contraire, les gens de la société ringarde, les ringards showbiz, disons, il m'est apparu que souvent, ils avaient très mauvais goût en art contemporain. Dans l'art contemporain dégénéré. Que ces gens-là trouvaient très bien le quartier de la Défense, par exemple, à Paris. Et regardez aujourd'hui, malgré tous leurs sous, comme cette classe-là est habillée, ce qu'elle mange, comment elle se divertit. Vous voulez être édifié? Regardez le reportage sur le gars extrêmement riche qui a fait l'arnaque à la taxe carbone. J'ai oublié son nom. Il y en a un comme ça, il est filmé chez lui dans un reportage dans le 16e arrondissement, près du Trocadéro, dans une maison, dans un hôtel particulier. Et là, vous allez comprendre. Ou regardez la toilette des riches boomers à Paris après 2015. Le côté manteau long en laine avec des baskets Asics, la demi-barbe, la casquette, enfin n'importe quoi. Voilà, c'est ça les gens qui nous dirigent à peu près, quoi. En tout cas, qui sont au service de la plutocratie en France. Eh bien, il y a une intelligence de la forme, une intelligence, une intuition, une grâce, une gratuité. Et de la même manière, il y a une stupidité de la forme, une stupidité statifiée, sectaire, anti-intuitive de certaines bourgeoisies actuelles. Qui sont arc-boutés sur des dogmes par trouille et par conformisme. Et ces dogmes, on les a vus, se vacciner, le sémitisme, l'athéisme peut-être, se faire sodomiser peut-être, pas être raciste, se faire commander par des femmes, être un homme soumis soit forceur aussi, hein, ce qu'on appelle le personnage du forceur, enfin voilà, une femme soit antiféminine, soit manipulatrice. Et tout ça. Il y a un esprit de ces choses-là, mais il y a aussi une démonstration concrète de ce à quoi ça correspond, comme si tout se correspondait dans un ciel un peu platonicien, comme ça. Il y a des résultats, des actes observables, vérifiables, mesurables, qui correspondent avec ces conceptions-là de la vie, dans laquelle l'esprit domine la matière. Et si nous sortons, nous, d'une certaine ascèse, de certains efforts dans notre vie concrète, eh bien la matière recommence à dominer sur nous et nous écrase à nouveau. et nous redevenons les lourds dont parle Céline, qui n'agissent pas et qui sont agis plutôt. Qui disait que la propriété privée, c'est le vol. C'est le vol, certes, si la propriété privée est un marché ouvert au monde entier. Mais si elle est réservée sous certaines conditions à des gens d'un certain endroit, ça devient autre chose. Regardez par exemple la Thaïlande, où un étranger ne peut pas acquérir une propriété privée. Il doit pour cela s'associer au minimum à 50-50 avec un Thaïlandais de souche. Dans ces cas-là, la propriété privée devient, pour les sédentaires, une tactique pour mettre au pas les envahisseurs potentiels. Remarquez que les points de contact désagréables avec ces derniers ont toujours lieu dans des espaces publics. Mais lorsque, au contraire, le territoire appartient à tout le monde et à personne, par exemple l'espace public à Paris, lorsque l'on hausse les épaules de lassitude, que l'on habite son habitat à minima, que l'on meuble avec du brol, de récup, eh bien, insensiblement, on accomplit tous les pas vers la multipropriété, vers le barbare, vers l'égalité avec un sous-prolétariat inépuisable. On descend de la qualité à la quantité, processus que veut le marché, que veut aussi la plutocratie. C'est vous ne posséderez rien. Et vous savez,
Et vous
c'est la
serez
deuxième
heureux.
partie de la phrase, parce qu'on commence à y croire de moins en moins, quoi. Mais aussi, on va vers notre propre paresse qui est toujours là en nous. Or, quand on approuve une dégradation de qualité de son chez-soi, c'est que insidieusement, on admet que ce n'est plus exactement chez soi. Voilà. Dans le processus de dégradation de nos propres standards, je pense à deux choses. Par exemple, à l'armée. Depuis quand l'armée n'a plus rien à dire? Oh, certes, depuis peut-être le plan blanc de Sarkozy, sur lequel peut-être un jour, si la situation politique en France se retourne, à qui il faudra sans doute demander des comptes, le sieur Sarko. Mais depuis quand l'armée n'a plus rien à dire, on pourrait aussi peut-être, je sais pas, prendre cet argument assez provocateur, mais peut-être depuis qu'elle ne rentre plus son pantalon dans les chaussures. Vous vous souvenez de ça quand l'armée avait des chaussures en cuir montantes et le pantalon rentrait dedans, le côté impeccable comme ça. Il y a une dégradation progressive de l'incisif vers le relâché, aussi dans le vêtement, quoi. Il y a un relâchement, une flemme, c'est plus pratique, ça va plus vite, allez, on laisse le pantalon sorti. Ça ressemble à rien, je veux dire, on est d'accord. Et les vieux, depuis quand les vieux n'ont plus rien à dire comme force de personnes, de prescripteurs? Alors peut-être depuis que désormais les vieux, c'est la génération des boomers âgés, ouais, mais aussi peut-être depuis que les vieux mettent des baskets. On peut faire 800 pages de livres sur la psychosociologie des boomers. Leur séquence historique 1940-2020, ok, très bien, oui. On peut aussi se cantonner à une certaine sécheresse, 17e siècle, vous savez, à la Rochefoucauld. Bah, les vieux de 2020 mettent des baskets. Point. Voilà, je pense qu'on a répondu à la question. Le métier d'architecte est vraiment un très beau métier dans la mesure où il permet de réaliser un bâtiment à partir d'un plan, d'incarner l'idée par un corps. De nos jours, on voit se répandre une conception extrêmement nomade de l'architecture, qui normalement est la catégorie du sédentaire par excellence. On le voit notamment avec un rapport à l'habitat privé, qui est un rapport qu'on pourrait avoir avec un hôtel. C'est-à-dire qu'on met tout en blanc. Il y a des contrats courts, c'est habité par des gens qui font des métiers précaires, même des métiers précaires bien payés. Mais une ville comme Londres est un vivant témoignage de ça. À Londres, qui était, enfin, Londres, qui était une ville vraiment très, très enracinée, d'un pays insulaire, quoi, la capitale d'un pays insulaire, donc vraiment ce qu'il y a de plus imperméable au reste du monde, c'est devenu une ville où les intérieurs sont tout en blanc, où les angles sont biseautés, enfin voilà, où il n'y a plus ça, cette espèce de culture du bas-relief, vous voyez, des choses comme ça, en tout cas dans les intérieurs. De l'extérieur, c'est toujours très joli. Toutes les maisons sont magnifiques, ça c'est sûr, y compris les anciennes écuries devenues des maisons. On peut voir aussi ce rapport très nomade à l'habitat sédentaire avec les magasins provisoires qui fleurissent partout dans les villes. Alors il y a des faillites partout, et puis tout d'un coup, il y a des magasins provisoires qui y arrivent. Outlet, les magasins qui existent pour des périodes de 4 mois, vous voyez, les magasins qui existent pour vendre des produits par fausse promotion. Exemple, le magasin Outlet de telle marque de chemise. Ils vous vendent des chemises, ils vous mettent dessus moins 60%. Et en fait, vous regardez le prix, et il y a écrit, ouais, mais c'est 80 euros la chemise, ce n'est pas tellement une grosse promotion, c'est le prix normal d'une chemise. Ouais, mais non, c'est une super promo parce que normalement, elle en coûte 160 euros, disons. Eh bien, parce qu'elle procède par fausse promotion et fausse réduction. Enfin, voilà, vous êtes là en face de magasins qui sont des faux magasins, mais qui ont juste besoin d'une espèce d'idée force pour exister. Sinon, ils existeraient par Internet seulement. On en est là quand même pour réussir à payer des loyers, y compris dans le bâti commercial, quoi. Qui dit travail précaire dit habitat provisoire. Donc, habitat plus ou moins nomade. Qui dit habitat provisoire dit ameublement standard et industriel, et donc ameublement chez IKEA ou des entreprises comme ça, et donc tue les artisans locaux capables de réaliser de vraies belles choses.
Oui, c'est un peu la société où on ne transmet plus de génération en génération les fameux meubles des grands-parents tels qu'on pouvait le voir jusqu'à la génération des boomers, où on avait toujours l'armoire normande de la grand-mère qui passait de génération en génération, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un guéridon IKEA, ça se baigne et puis on en achète à nouveau.
C'est ça. On le jette ou on le vend.
Et on ne transmet rien.
L'architecture, c'est donc le pouvoir d'embellir. Et l'écrivain Jean Giraudoux, au début XXe siècle, avait essayé de faire. Enfin, il avait voulu créer un ministère de l'embellissement des villes, ou être le conseiller pour l'embellissement des villes. Ça, c'est un très beau métier. Il faudrait qu'il existe ce métier. Il faudrait qu'il y ait un secrétariat à ça, vous voyez. Donc, si le prez, le nôtre, devient président de la France, il faudra qu'il y ait un secrétariat d'État à ça. Et si vous voulez, on y officiera, si vous voulez, pourquoi pas.
Le message est lancé, oui.
Voilà, mais ça j'ai lancé, très bien. Bon, voilà, embellir un parc aussi, embellir une rue, oui, embellir, je sais pas moi, une église, embellir des bâtiments publics. C'est des vrais métiers qui, je pense, qui donneraient du baume au cœur à ceux qui les feraient en plus. C'est parce que ça mobilise nos qualités d'imagination, de rigueur à la fois. Et puis d'optimisation, enfin, je veux dire, c'est des chantiers passionnants quand on comprend ce que ça peut être. Mais on n'a même plus l'idée de les imaginer, ces sujets-là, vous voyez. Or, les belles réalisations, elles viennent toujours d'une idée comme ça, d'une espèce de ferveur pour le gratuit au début. Et bien sûr qu'après, ça peut rapporter de l'argent, ou même ça peut être embêtant parce qu'on voit que c'est pas faisable tel qu'on l'aurait rêvé, parce que ça coûte trop, etc. Mais déjà, avoir l'idée de ça, c'est déjà beaucoup. Ce que je reproche beaucoup à la bourgeoisie actuelle, c'est de même pas avoir l'idée de ça, de traiter ça comme un truc secondaire, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est pas ça qui compte. Bah, résultat, quand vous êtes invité chez des gens, chez eux, c'est moche. Il y a des grands écrans plasma au mur et il n'y a pas de livres. Ils connaissent pas, je sais pas, il n'y a pas de gravure, il n'y a pas des beaux trucs qu'il y avait dans la bourgeoisie ancienne. Ok, elle était embêtante, la bourgeoisie ancienne, mais au moins, elle avait un certain goût. La bourgeoisie décadente et exploiteuse n'avait pas forcément toujours mauvais goût, voyez-vous. C'est peut-être pour ça qu'elle avait le droit d'exister.
Oui, parce qu'elle tirait vers le haut, en tout cas. Elle tirait vers le
Ouais,
haut.
voilà, elle tirait vers le haut les autres, quoi. C'est ça. Et ça s'est effondré à partir de la contestation 60-70, qui a eu deux périodes, mais elle a eu une deuxième période catastrophique, sa période thermidorienne, comme dit Félix Nietzsche, qui est vraiment la période de destruction de tout, quoi. Le paradoxe, si vous voulez, dans le laisser-aller de la décoration d'intérieur et d'ameublement, qui est une discipline beaucoup trop laissée, je trouve, aux homosexuels et aux femmes, alors que c'est une vraie catégorie masculine, parce que c'est comment on va se déplacer chez soi. C'est très masculin quand on est chez soi. On doit partir parce qu'on a rendez-vous, il faut qu'on soit à l'heure. Très important, c'est d'être à l'heure, par exemple, et de vite trouver tout chez soi, de vite trouver nos affaires. Où est-ce que j'ai mis tel truc? Où est-ce que j'ai mis tel truc? Et ça, vite retrouver ses affaires, bien sûr, ça suppose d'avoir rangé chez soi correctement, mais ça suppose aussi que les choses soient fonctionnelles, qu'il y ait un meuble à tel endroit dans lequel on a tel truc, que ce meuble soit très bien conçu, qu'il ait un tiroir comme ci et pas comme ça. Vous voyez, tout ça, c'est des trucs très masculins. Hein. Et en réalité, quand vous confiez à une femme le soin de meubler un logement, il y a des tas de choses qui seront peut-être jolies, mais qui ne seront pas très, très correct sur le plan de l'orthopraxie fonctionnelle. Vous voyez, vous ouvrez un tiroir, il va c'est pas qu'il va grincer, mais la butée va pas bien se faire. Vous voyez, il y aura, enfin, je sais pas, il y a des petits aspects concrets comme ça. Normalement, c'est un intérieur parfait, c'est presque comme un costume sur mesure, c'est extrêmement bien pensé, tout y est beau, construit avec des matières. Que seuls les artisans véritables maîtrisent, les artisans donc qui construisent sur mesure, parce que ça suppose d'utiliser le bois, le cuir, la laine, la flanelle, le feutre, vous voyez, parce que ça, c'est des matières qui amortissent, qui font que vous êtes quelque part et tout est feutré. Il n'y a pas de grincement, il n'y a pas de, je sais pas, de, vous voyez, de trucs comme ça. Les mouvements sont coulés, vous voyez, ce genre de choses. C'est des choses très agréables, quoi, voilà. Bien, voilà. Tout ça nous amène maintenant au mobilier, puisqu'après l'urbanisme et l'architecture, il y a l'intérieur et qui est la question du mobilier, de l'ameublement, de la décoration. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ici un petit peu en matière de mobilier? Alors, je voulais parler éventuellement d'un antiquaire spécialisé dans la vente au détail de meubles et d'objets de décoration intérieure qui s'appelait Robert Keim, qui avait bah, il existe toujours son magasin d'ailleurs. À Londres. C'était un spécialiste de cette école qui mêle un peu la rigueur européenne et l'orientalisme. Il y a une manière de trouver une vraie sprezzatura dans les intérieurs. Sprezzatura, c'est le style italien du vêtement chic. Vous savez, quand ils portent un costume très, très beau, mais ils ont l'air de le porter d'une manière relâchée, décontractée. Mais il y a une sprezzatura aussi appliquée aux intérieurs. Des intérieurs qui sont très chaleureux, très européens, mais qui n'ont pas l'air d'être professionnellement décorés. C'est les intérieurs de cet homme, Robert Keim, avaient semblé un peu celle de l'aventurier qui enrichit son foyer d'une trouvaille supplémentaire à chaque retour de voyage. Ces pièces évoquaient la sédimentation patiemment accumulée d'un cabinet de curiosités. Elles exprimaient en miniature 5 continents et 30 siècles, l'espace large et le temps long, pardon. En somme, ces intérieurs avaient une âme. Voyez ce que je veux dire quand vous entrez chez des gens qui habitent là depuis longtemps. Alors, ça a pu le faire pour certains d'entre nous, pour nos grands-parents. Vous voyez comme un lieu, tout de suite, il raconte une histoire. Voilà, c'est très prenant. Bon, ça, c'est quand on a la chance d'habiter longtemps quelque part, dans un endroit qu'on aime, et qu'on a des sous pour en faire un endroit bien, joli, à la fois joli et fonctionnel, et qui peut se transmettre, comme tu le disais, camarade, puisque c'est aussi beau d'avoir beaucoup soigné un endroit et de le transmettre à des gens à qui on a donné à aimer cet endroit. Vous voyez qu'on est éduqué quelque part dans une bonne atmosphère, saine, on retient bien davantage que ce que nous disent les grandes personnes, on retient comment ils ont conçu la vie. Voilà, c'est ça qu'on retient d'eux en réalité. Et ça se trahit chez eux par tout ce dont on parle qui est concret, le vêtement, l'ameublement, la manière de manger à table, la manière de... Voilà, c'est des choses très concrètes comme ça. Le paradoxe, c'est que à la fois on ne fait plus attention à l'ameublement, mais à la fois les entreprises qui vendent des produits d'ameublement se portent extrêmement bien. Armani Casa et Ralph Lauren Home. Et vous voyez aussi les deux ersatz de ces sociétés-là. Donc Armani Casa, c'est Giorgio Armani qui l'avait lancé, et Ralph Lauren Home, bien sûr, c'est Ralph Lauren. Et si vous voulez, il y a deux entreprises qui font des ersatz de ces boîtes-là, qui ont copié finalement ces deux boîtes-là, et qui se portent extrêmement bien, et qui sont très Instagrammées, c'est H&M Home, qui copie Ralph Lauren Home, et Zara Home, qui copie Armani Casa. Vous regardez les trucs qu'ils vendent, c'est à peu près les mêmes. Eh bien, ces entreprises-là se portent très bien, ce qui est quand même un drôle de paradoxe dans une époque comme la nôtre, mais c'est parce que ces entreprises-là sont plébiscitées principalement par les femmes. Et c'est elles qui achètent, en fait, elles sont très clientes de ça parce qu'elles vont là-bas comme elles achètent des chaussures, elles achètent des gadgets, mais elles ne savent pas bien mettre, bien allier l'aspect esthétique à l'aspect fonctionnel dans une pièce. Elles vont acheter les beaux vases, les beaux trucs et tout, mais ça vient en dernier lieu, si vous voulez, dans un logement. L'homme, c'est celui qui sait comment bricoler un endroit, comment le mettre en valeur. Voilà, comment mettre en valeur, je sais pas, par exemple, une salle de bain. Toutes les salles de bain maintenant ressemblent à des, et les cuisines ressemblent à des blocs opératoires. Et ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a une tradition de ces pièces-là qui n'est pas la tradition du carrelage blanc et du spot de plafonnier. Mais bon, tout ça, il faut connaître. Et c'est des sujets intéressants qu'on veut bien les regarder et assez masculins.
lumière aussi, le mode lumineux, très important à l'époque des LED. Je suis quelqu'un qui m'éclaire beaucoup pas la bougie, parce que
Ah ouais.
c'est un mode d'éclairage qui est très reposant.
Ouais. Ah ouais. Bah tiens, là, tu me donnes une idée. Là, il faudrait que j'en fasse autant. C'est très agréable de rentrer chez soi le soir et qu'il y a les bougies, de dîner aux bougies. Qui l'a? C'est vrai que c'est pas bête, ça. Ouais, les dîners, ce qu'on appelle dîner aux chandelles, c'est très agréable. C'est très. Ça met une ambiance. Bah, ce film très beau, là, Barry Lyndon. Alors, je crois que l'idée maîtresse de ce film, c'était de faire les scènes nocturnes sans aucun éclairage. Qui venait de derrière la caméra, aucun éclairage artificiel. Et notamment, les scènes de dîner sont tournées à la bougie, à la chandelle, ouais, avec une caméra très performante qui captait très bien la lumière. C'est très agréable, effectivement, d'être éclairé à la bougie chez soi, à minima, en éclairage indirect, avec des lampes à abat-jour, et surtout pas des éclairages qui viennent du plafond, vous voyez, qui éclairent trop fort
Des spots.
les spots. Voilà, ça c'est la grande hérésie des années 70-80. Vous voyez tout le mauvais goût. Pour qu'une bourgeoisie ait accepté ça, des gens qui avaient les moyens de payer et qui n'ont pas compris qu'ils étaient en train de payer pour ce qu'il y avait de plus antifonctionnel, c'est qu'ils avaient forcément foncièrement mauvais goût. C'est toute la montée dans les années 80 d'une classe bourgeoise qui s'appelait les ringards showbiz. Ils n'avaient plus ce sens fonctionnel. Ils venaient d'avoir beaucoup d'argent par différentes opérations de prédation, enfin, c'est la génération Bernard Tapie, qui est très bien croqué aussi par les inconnus dans le film Les Trois Frères. Vous voyez le truc où Légitimus il habite dans une espèce de loft parisien, mais qui est dégueulasse le truc. C'est blanc, il y a le Kundelich dans l'entrée, l'espèce d'objet d'art contemporain super prétentieux et moche. Et puis il y a, enfin je sais pas, vous voyez, il y a un premier étage mezzanine avec pas une barrière en métal, enfin tout est vraiment agressif comme ça. Voilà,
Et
c'est typique.
la queue de cheval résume à peu près tout.
Voilà, en plus,
Voilà.
le truc antifonctionnel par excellence, quoi. Voilà, bien sûr, tout à fait. La queue de cheval. C'est marrant parce qu'à cette époque-là, à l'époque qui est croquée par les inconnus, la queue de cheval a été commune en fait à deux classes montantes qui étaient d'un côté le cégétiste, enfin, le syndicaliste CGT avec du ventre, quoi, qui se mettait en grève, mais pour manger des merguez. Et puis le gars de la com, enfin, voilà, le gars qui allait travailler chez Young et Rubicam, quoi. Dans la campagne, en France, l'horizon est sacré parce que c'est nous-mêmes, c'est nos ancêtres qui l'ont façonné. Et donc, la turbine à vent qui arrive du jour au lendemain là-dessus, ce qu'on appelle soi-disant l'éolienne, en fait, c'est la turbine à vent. Les mots, c'est important parce que ça permet. Vous voyez, turbine à vent, c'est plus violent que éolienne. Éolienne, il y a éole, les vents, machin. C'est vachement important dans une situation donnée de parler correctement. Par exemple, il ne faut pas dire que la France a été bien amochée depuis longtemps. Il ne faut pas mettre l'adjectif bien dans des. Tout ça s'apprend, ces trucs-là. Hein. C'est des mecs qui ont étudié la publicité, ils pourraient l'apprendre à certains droitards qui font toutes les fautes quand ils veulent aider le pays. Ils ont la bonne volonté, ils ont la bonne intuition, mais ils n'ont pas la mise en forme de tout ça toujours. Il faut mettre en forme aussi un discours. Tout ça, c'est de l'art. Hein. C'est de l'intelligence concrète, encore une fois. La turbine à vent, le hangar logistique de 3000 mètres carrés là, qui vient se poser du jour au lendemain sur un territoire à bâtir, vous voyez, qui jadis était un magnifique champ de blé, voilà, avec ses épis qui dansaient au gré du vent, ou encore l'antenne de métal, n'est-ce pas, les immenses antennes de téléphonie qu'il y a partout, de 5G, etc. Mais tout ça, elles annulent la campagne, elles profanent l'horizon. Et en plus, elles le font du jour au lendemain, ce qui est extrêmement violent. Quand est-ce que ça partira? Jamais. Je veux dire, c'est horrible ce qui s'est passé en France depuis seulement 5 ans. On ne parle pas là de regroupement familial, ce qu'il y a eu depuis 5 ans en France, mais c'est abominable. C'est un sujet dont on devrait parler H24. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais froncer les sourcils lorsqu'on voit aux informations que l'une de ces obscénités a été incendiée, ou sabotée, ou sciée. C'est normal. Ça, c'est l'automouvement de, voyez, du peuple qui a conscience de lui-même. Ça, quand il se passe des trucs comme ça.
Sur le parallèle entre la ville et la campagne, en fait, en termes de relation de l'homme à son lieu d'habitat, ce qui me frappe, moi, je suis né à la campagne, hein, en bordure du Marais Poitevin, et ce qui me frappe beaucoup en ville, c'est que le premier critère, c'est que l'homme est lié au commerce. Alors qu'à la campagne, la nature et l'homme sont liés par une organisation productive en lien avec les ressources naturelles, tout simplement. Et dans ces campagnes, autrefois, il y avait des marchés aux bestiaux, des halles de producteurs. Donc, les producteurs habitant tout autour des petits villages se regroupaient dans des lieux de lien social. Et progressivement, tout ça migre vers des zones commerciales où, au lieu d'avoir du lien social, on bascule dans l'anonymat. Et la ville en campagne gagne du terrain sur les zones de culture. Parce que les sols ont été tellement martyrisés chimiquement, mécaniquement, par cette agriculture industrielle. Donc on passe encore une fois vers quelque chose de stérile, où les gens se retrouvent une fois de plus projetés dans l'anonymat et non plus leur lien à leur naturalité, quoi, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose, moi, j'essaye de lutter en faisant de la permaculture, en faisant de l'aménagement de site et en regroupant sur un site tous les plus beaux endroits des localités, les différents milieux naturels, pour créer une zone fertile où l'homme est reconnecté à sa nature et à la nature.
Ce que tu dis sur l'extension très angoissante du bâti sur les zones de campagne, ce qui est très angoissant, c'est que elle se fait sur des zones qui sont en friche, souvent. Il n'y a pas d'extension du bâti sur des zones qui sont cultivées, qui sont détenues en propre par des gens. Ce n'est pas possible. On met une éolienne sur un champ quand, bon, déjà quand le champ, hélas, commence à rapporter plus assez, mais aussi parce que le voisin, il a fait pareil. Et que donc, vu qu'il salit le paysage et que lui, il gagne de l'argent, on se dit, ah bah, je vais en faire autant, et au moins comme ça, j'y gagnerai quelque chose. Mais aussi parce que c'est une autre manière comment dire, de concevoir le territoire autour de soi. Il n'est plus possédé de la même manière. Ça, c'est un truc terrible, hein. La manière dont on vous dépossède de votre territoire, c'est là où en fait, on voit par la preuve concrète que vous ne posséderez rien, peut-être, et vous serez heureux. Ce n'est pas vrai. C'est la propriété privée, c'est quelque chose de fondamental. C'est une vraie catégorie, ça, la propriété privée. De faire que, vu qu'on ne peut pas vous voler chez vous, ou y mettre des gens de force, on va peu à peu faire que votre propriété soit de moins en moins privée et faire que ça vous casse les pieds de plus en plus, quoi, la propriété privée, en y mettant des charges de plus en plus élevées, etc. Voilà, vous savez qu'on vit actuellement à une époque où il y a un risque de retournement du marché de l'immobilier, qui jusqu'ici ne faisait que d'augmenter en valeur. Vous regardez le marché de l'immobilier en France entre les années 70 et 2000, au moins 2015-20, c'est une augmentation constante de la valeur de tous les biens. Et à un moment, surtout même années 90-2000, c'est des augmentations mais exponentielles. Eh ben, cette valeur tend à baisser par des tas de raisons, de taux d'intérêt, etc., on le sait, mais aussi par des raisons d'augmentation du prix des charges, du coût des matériaux, etc., qui font que finalement, à force de payer des charges, ben vous payez presque un loyer et que finalement, vous êtes locataire. Et en plus, vous êtes censé vous voyez, être propriétaire et valoriser le bien que vous avez. C'est un vrai sujet, ça aussi. Et disons, une révolution nationale peut advenir que par des gens qui sont propriétaires ou anciens propriétaires, qui ont une forte conscience de soi, quoi, et de conscience grégaire aussi par le fait que le territoire, il est à eux, si vous voulez. Ils sont un seul et même peuple, unis par une culture, par des noms de famille, par des choses comme ça, mais aussi par le fait que le territoire, c'est à eux, et c'est comme ça. Et ce que tu disais sur le rapport de l'homme à la nature ou de l'homme à la ville. Mais finalement, ce qui est terrible dans la ville, c'est qu'on est tous des salariés locataires. Ça veut dire que notre travail ne nous appartient pas et notre logement ne nous appartient pas. Donc, quelque part, qu'est-ce qu'on fait là? Que ce soit là ou ailleurs, ce serait pareil finalement. Et donc, de la même manière, bah, n'importe qui, le premier connard qui arrive ici, le premier prédateur qui arrive, bah, lui aussi, il a autant de droits que toi. Et c'est comme ça qu'on te force, qu'on te met à égalité avec le premier prédateur, squatteur venu. Ça, c'est une immense violence, mais elle se fait étape par étape, quoi. Elle se fait d'une manière si pernicieuse qu'on la voit pas venir. C'est là, une fois de plus, qu'il faut bien regarder le monde qui nous entoure. Vous voyez, cette espèce d'effort d'attention, de vigilance. C'est une vraie manière de reprendre pied hein, aussi. Bon, c'est une manière de souffrir aussi parce qu'on a l'impression d'être pris dans un mouvement qui n'en finit pas et sur lequel on n'a aucune prise. Donc c'est très douloureux. Mais c'est là que peut-être qu'il y a un espoir, c'est de refaire du réseau avec des gens qui sont dans le même cas que nous, si vous voulez. Le réseau d'entraide, au moins d'informations intérieures pour se dire où sont les bons plans les uns les autres, vous voyez. Des petits trucs comme ça. Vous voyez le site Gens de confiance, c'est pas mal ça, ce genre de truc. Qui est un espèce d'esprit général. Disons, là, ici, dans ce cas-là, c'est plutôt bourgeois, chrétien. Bon, mais bon, il peut y en avoir d'autres sortes, hein, des sites gens de confiance. Ça pourrait être aussi gens de confiance, des camarades ER, vous voyez, et où, sur un esprit commun, eh ben, il y a un groupe qui se forme, qui s'agrège comme un noyau, et de là, on décide ou non de coopter des mecs de l'extérieur, une fois qu'ils ont fait leur preuve, et alors ils rentrent, et qu'est-ce que tu peux apporter Où sont les bons plans, où sont les mauvais plans, l'information circule, là il y a lui qui peut faire ça, tu veux faire ça, bah, lui il peut t'aider, tu veux mettre de l'argent dans tel truc, attends, il y a lui aussi. Vous voyez, c'est ce genre de truc, quoi. C'est-à-dire un réseau qui est un carnet d'adresses, comment dire, un site de petites annonces aussi, vous voyez, ce genre de choses, quoi. Bon, voilà. Mais pour ça, il faut atteindre une certaine masse critique, il faut un
C'est
certain
ça.
nombre. C'est difficile à faire si vous êtes 20, 30, 40. Ça commence à être intéressant quand vous devenez sur un territoire donné, surtout s'il n'est pas trop grand. Si vous devenez 100, 200, 300, c'est bien. Mais alors, il faut que ça fonctionne par cooptation pour qu'on sache exactement qui est qui. Vous voyez, ce genre de truc, quoi. Bon, voilà, des idées comme ça.
Ouais, il y avait des réseaux comme ça qui existaient, il doit encore exister, il s'appelle le réseau Solaris, qui avait été créé sur 2020, à peu près en plein milieu de la pandémie. Donc forcément, par réaction, ce réseau s'est créé. Et pour en avoir fait partie un peu, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pertinent en termes d'initiative, mais en termes de fonctionnalité, ça n'avait aucun sens. Il n'y avait aucune
Ah ouais.
hiérarchie, il y a aucune hiérarchie en
Ah
termes de
ouais.
commandement. Et en
D'accord.
fait, pour faire simple, c'était composé à 70% de femmes de plus de 60 ans.
La question, elle est réglée. Hein. Ouais, très bien. Bon, voilà, c'est bon, bref, quelque part, c'est elle qui doit s'occuper un peu du foyer, quoi, dans un rapport traditionnel aux choses. Ok, très bien, mais un truc comme ça, faut qu'il y ait un bureau central, que ce soit des hommes, que ce soit des mecs un peu exercés qui fait des trucs sur le terrain, quoi. Je veux dire, dans un réseau de revente de pièces détachées, il faut que les mecs soient des garagistes, quoi, parce que sinon, ils ne savent pas de quoi ils parlent.
Quand j'étais gamin, j'étais dans une école qui s'appelait l'école Henri Sellier. Et bizarrement, j'ai redécouvert ce nom en préparant l'émission. Et en fait, Henri Sellier, j'ai découvert que c'était un très grand urbaniste français, un socialiste de la SFIO, donc maire, sénateur, député. Il a fini, je crois, ministre sous le Front Populaire. Hein, donc c'est quelqu'un de gauche, antifasciste, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la gauche. C'est que à l'époque, il y avait cette volonté d'extraire la classe ouvrière de ses conditions misérables, c'est-à-dire de tirer vers le haut.
Travaille à quelle époque, Henri Sellier?
Henri Sellier, c'est dans les années 20, des années 20 aux années 30.
Ouais.
Et c'est quelqu'un qui a bâti la ville de Suresnes. Alors une ville de Suresnes, c'est dans les Hauts-de-Seine. À l'époque, c'était le département de la Seine. À cette époque-là, aujourd'hui, c'est les Hauts-de-Seine, le 92. Et ce qui est curieux, c'est ce qu'il a mis en place, en fait, dans cette ville. Alors il a construit une cité-jardin qui est assez connue. Une cité, un tiek, comme on dirait aujourd'hui, pensée autour de jardins centraux. Alors des petits jardins qui ne sont pas des jardins de culture, forcément, ce sont des jardins de plaisir, hein, mais avec cette dimension très hygiéniste. Ce qui est intéressant, c'est que dans la ville, il a développé donc un bureau d'hygiène, par exemple. Il a instauré un bureau d'hygiène dans sa ville de Suresnes. Ce qui est quand même assez révélateur de la volonté. C'est presque célinien, là. On va toucher d'ailleurs
Bah, bien sûr, Céline travaille dans les dispensaires pour les pauvres.
Oui, et c'est un hygiéniste. C'est vrai qu'il a cette démarche. Alexis Carrel, dont on entendra, je
Oui.
pense, de plus en plus parler dans les années à venir,
Oui, bien sûr.
ce sont des médecins qui ont cherché, à une certaine époque, à vraiment extraire de la misère une grande partie de la population.
Et les années 20-30, c'est des années hygiénistes, en fait, où on construit des piscines, des stades, des trucs qui n'existaient pas avant. C'était la première fois qu'on faisait ça.
Des collèges, des écoles, de plus en plus, bien équipées, bien pensées, et qui sont toujours debout. À part dans celles qui ont eu le malheur d'être construites sur des zones de guerre, qui ont été victimes de la Seconde Guerre mondiale principalement. Mais c'est vrai que pour tout le reste, tout tient debout. Ce sont des bâtiments magnifiques, très bien pensés, très bien construits. Et je me permets de lire une petite citation d'Henri Sellier, donc c'est un socialiste hein, qui parle, hein, dans les années 30, qui disait: L'urbanisme social se doit d'organiser un meilleur aménagement de l'humanité vers un niveau de lumière, de joie et de santé, un meilleur rendement économique. Car il y a urgence à défendre la race dans tous les domaines contre la certitude de dégénérescence et de destruction que les lamentables statistiques de la natalité, de la maladie, de la mort laissent apparaître. Aujourd'hui, 18% de la perte du revenu national est due à la maladie. Dans cette citation, j'ai l'impression qu'il y a tout. Il y a tous les problèmes, en tout cas, qu'on vit aujourd'hui. La natalité, la maladie, l'urbanisme.
J'aimerais savoir ton positionnement, ton avis sur peut-être cette petite prospective sur l'avenir tu sais, des smart cities, tu sais, cette espèce d'utopie davosienne là, qui quand même se met en place. Hein. On voit des gens de plus en plus avec des espèces de casques réalité virtuelle, et puis on voit aussi pas mal de voilà d'éléments connectés dans les villes, mais aussi dans les maisons. Selon toi, en fait, ça a de l'avenir ou pas ça?
C'est difficile à dire. Je me rends pas bien compte parce que pour le savoir, il faudrait l'utiliser beaucoup. Mais les smart cities, ça a aussi beaucoup à voir avec de ce que j'en conçois, avec, tu sais, avec un certain esprit. Si tu veux, pour qu'un truc comme ça existe, pour que la domotique prenne le pas sur la clé 3, avec la serrure à 3 points et des choses comme ça, il faut aussi que tu aies une bourgeoisie qui ait aucun problème moral à, je sais pas, à gagner du fric, à avoir des crypto-monnaies, à avoir de l'argent placé en bourse, à voter à gauche et à faire comme si les gens d'autres continents, c'était nos potes, et dans le même temps, à avoir des comptes Uber, tu vois, Uber Eats, des trucs comme ça. Pour que ces trucs-là fonctionnent, il faut aussi qu'il y ait beaucoup, beaucoup de... où tout passe par l'électronique. Alors la ville, ça passait déjà que par le rapport commerçant et marchand au monde, comme disait notre camarade des Pays de la Loire. Mais alors là, il y a une deuxième étape qui arrive, c'est où tout passe par le commerce, mais permis par l'électronique, quoi, si tu veux. Et il y a des gens, ils seront forcément toujours enfin, imperméables à ça. Je veux dire, c'est comme ça qu'on fait le tri entre qui et qui aussi. On peut le faire par exemple par le vaccin. Les types qui jouent les gros durs, là, les gros caïras, les gros porcs, les gros singes, là, qu'on rigole 2 secondes. Est-ce que vous avez tendu le bras, vous avez pris l'injection? On voit qui est qui tout d'un coup. Mais un autre truc aussi, quand quelqu'un te dit, oh, on est tous égaux, machin. Ah ouais? Tu sais, il faut être tolérant, pas de xénophobie, pas de machin. Mais toi, les xénos, tu les considères comment? T'as un compte Uber Eats, tu te fais livrer Deliveroo, tous ces trucs-là? Et là, on voit aussi qui est qui, quoi. Parce que moi, je ne suis peut-être pas xénophile ou d'autres, hein, des gens très bien, ça peut arriver à des gens très bien aussi. Mais disons, je suis sûr que ces gens-là, ils n'ont pas Uber Eats sur leur truc pour faire qu'un Érythréen vienne leur donner je sais pas, leur hamburger de chez Big Fernand, vous voyez. Pour qu'ils... Enfin, je pense pas que des. Voilà, c'est là qu'on peut faire le tri. Alors que c'est marrant, là, cette dialectique, mais un type dans un esprit très raciste, normalement, C'est le mec dans un esprit très raciste qui, lui, aurait seul le droit d'avoir Uber Eats sur son truc pour faire travailler à pas cher des mecs qui viendraient lui livrer sa nourriture comme un petit marquis se fait livrer par chaise à porteur, je sais pas moi, tel ou tel ingrédient, quoi. Vous voyez?
Ouais,
C'est sûr que... Comment?
on pourrait imaginer qu'en fait le monde va se paupériser, mais en fait l'ultra classe va se pérenniser. Ce qui fait que ce que tu dis, c'est que ça peut continuer, mais vraiment dans un univers type, je sais pas moi, le film Soleil Vert, où en fait on est sur
Ouais,
le.
même pas l'ultra classe, plutocrate. Il faut juste qu'il y ait des. Tu sais, les bobos, ce qu'on appelle vraiment les bobos, les bourges bohèmes, je sais pas, j'ai même pas de mots. Parce que sinon, après, je me fâche tout seul, tu sais. Parce que c'est quand même hyper grave, tu vois. C'est les pires golems qu'on puisse imaginer, quoi. C'est des personnes de synthèse. Mépris envers leur propre peuple. Mépris envers leur propre tradition, religion.
Leurs propres parents.
Leurs propres parents, enfin, tout ce qui a constitué ce qu'il y a de noble chez eux. Et en plus, ils disent qu'ils sont tolérants et xénolâtres, mais tout leur rapport à l'autre n'est que marchand et de prédation. Je ne sais pas quoi. Et même dans leurs admirations, le genre Usain Bolt tolâtre, vous voyez, c'est vrai, ouais, mais pour toi, c'est parce que le gars, c'est un esclave, il doit courir vite, tu vois, je sais pas, il doit te livrer vite. Tout n'est que comme ça chez ces gens-là quand tu les mets en face de leur truc. Le grand pays de l'intelligence pratique était la France. Et dès qu'elle a cessé de préférer cette ascèse qui est la mise en acte de toute philosophie pratique traditionnelle pour se perdre dans les mirages de la philosophie spéculative à partir du XVIIIe siècle, eh bien, c'est la rivale de la France qui est devenue championne de l'intelligence pratique, intelligence de la forme, intelligence des formes, aussi pour les bâtiments publics, etc. Eh bien, c'est l'Angleterre, pays chez qui le mot smart signifie à la fois l'intelligence et l'élégance. L'intelligence de la forme, elle est là-bas la marque vérifiable d'une élégance de l'esprit. On dit quelqu'un qui est intelligent, qui est smart, mais on dit aussi que quelqu'un, il est smart parce qu'il est bien habillé, qu'il est classe. Ça veut dire il est intelligent, lui, mais en même temps, il est classe. Il est smart. Le smart casual, c'est un style de vêtement, vous voyez? C'est l'intuition, la pénétration du raisonnement abstrait qui permet de déployer la forme concrète dans l'espace par la discipline la plus spécifiquement mâle de toutes les disciplines, la géométrie. C'est l'intelligence masculine, procède surtout par là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et merci Blaise pour l'invitation, merci camarade du Pays de la Loire
Merci à
de
toi.
cette fois-ci.
Merci à toi,
Ouais.
Lounès.
Avec plaisir.
Donc, chers auditeurs, l'émission touche à présent à sa fin. Merci à vous, à toi, Lounès, pour cet entretien qui ne manquera pas de susciter, je pense, la curiosité de pas mal de nos auditeurs. Et merci enfin à la section Égalité-Réconciliation des Pays de la Loire pour cette initiative toute militante. Avant de nous quitter, Lounès, je vous propose de choisir le dernier morceau musical pour clôturer cette émission. Alors, voici les trois choix. Premier morceau, The Hymn de New Order de 1981. Les Damnés de Taxi Girl de 1981 aussi. Et Give Me No Roses du Can, le groupe allemand, de 1979.
J'ai peut-être déjà dû entendre ces morceaux sans savoir qu'ils se réfèrent à ces titres-là, mais alors simplement par habitude et parce que j'aime bien la pochette et que j'aime bien l'album, je vais simplement dire New Order de l'album de 81.
Excellent choix. Et c'est sur ces notes, chers auditeurs, que nous allons nous quitter en musique, sans oublier, je vous le rappelle, le financement associatif de RFM et de la rédaction de Combat, car la lutte continue, camarades.